Radio Prague, les informations.
La Tchéquie est autorisée à poursuivre ses négociations avec les États-Unis sur l'exemption de visa. La majorité des Tchèques est contre le tabagisme. Le trafic à l'aéroport de Prague a été bloqué à cause du brouillard. La Tchéquie peut poursuivre les pourparlers bilatéraux avec les États-Unis sur l'exemption de visa pour les ressortissants tchèques. Simultanément, la Commission européenne négociera avec les États-Unis l'élargissement du programme des relations sans visa pour l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Selon un récent sondage de la société STEM, 2/3 de la population tchèque demande que les espaces pour les fumeurs et les non-fumeurs dans les restaurants soient séparés par des murs solides. 57% se prononcent pour l'interdiction de fumer dans tous les lieux publics, dont les restaurants, les cafés et les discothèques. Dans la population tchèque, il y a 69% de non-fumeurs dont la moitié sont les personnes qui refusent le tabagisme dans les lieux publics. Le trafic a été suspendu à l'aéroport de Prague-Rosigné pendant 5 heures dans la matinée de ce vendredi à cause du brouillard. 25 vols ont été supprimés, 35 avions ont été obligés d'atterrir à d'autres aéroports. Dans la majorité à Brno et à Dresde, le trafic n'a repris qu'avec de grandes difficultés, la majorité des vols ayant pris des retards considérables. Après l'élargissement de l'espace Schengen, le nombre de vols à Zittau, ville allemande située tout près de la frontière tchèque, a considérablement augmenté. Par contre, la suppression des contrôles aux frontières a apporté une importante baisse de criminalité dans les villes tchèques des régions limitrophes. Les préfets de toutes les régions de République tchèque appelleront le ministère de l'Environnement à négocier avec la Commission européenne de meilleures conditions pour le financement par les moyens de fonds européens de la modernisation des centrales d'épuration des eaux. Ils ont lancé cet appel ce vendredi lors de la réunion du Conseil de l'Association des régions de République tchèque. À partir de ce vendredi, la police garde le cimetière national de la ville de Térésine. Dès lundi prochain, la surveillance sera assurée par l'agence privée Dona Security. Selon le porte-parole du ministère tchèque de la Culture, Jan Cislar, cette mesure doit éviter les vols dans le cimetière. La semaine dernière, 327 plaques en bronze ont été volées sur les tombes du cimetière du mémorial de Térésine, portant les noms des victimes du ghetto et du camp de concentration qui avait existé à cet endroit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Météo. Ce vendredi, fête de toutes les Valéries, selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie est nuageux à variable et les températures se situent entre 12 et 16 degrés. Samedi, le temps en République tchèque sera nuageux à couvert, il pleuvra et les températures diurnes s'échelonneront de 10 à 14 degrés. C'était les informations de Radio Prague qui vous ont été présentées par Václav Rechte.
Faits et événements en République tchèque. Guillaume Narguet.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être à l'écoute de ce dernier tour d'horizon de l'actualité en République tchèque de la semaine. Au sommaire aujourd'hui, il sera tout d'abord question d'un anniversaire, le 50e en l'occurrence, de l'égyptologie tchèque. Une histoire riche en succès et en découvertes, comme le rappelle l'ouverture d'une exposition et comme nous l'entendrons dans quelques instants. Fait exceptionnel ensuite, pour la première fois depuis 5 ans, les joyaux de la couronne de Bohême sont exposés au public à partir de ce samedi au château de Prague, et ce pour 11 jours seulement. Autre sujet moins réjouissant, une société australienne souhaite faire des études du sous-sol tchèque, un sous-sol, comme on le sait, riche en uranium. Mais les communes concernées et leurs habitants s'y opposent. Enfin, nous terminerons avec une des célèbres villas de Prague, la Villa Werich, au pied du pont Charles, abandonnée depuis des années et qui sera transformée en centre culturel. Mais en attendant de développer tous ces titres, l'ensemble de la rédaction française vous souhaite une agréable réception de nos programmes, et ce, où que vous soyez dans le monde. On commence donc avec l'anniversaire de l'égyptologie tchèque qui fête ses 50 ans. ou plutôt l'Institut d'égyptologie tchèque, car l'intérêt pour cette civilisation, qui en a fasciné plus d'un, remonte à une période bien plus antérieure dans les pays tchèques. Une petite exposition rappelle les grands moments de l'égyptologie tchèque. Anna Kubišta nous en dit plus.
Quand on parle d'égyptologie, on pense avant tout à trois grands pays fondateurs, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Les pays tchèques, à leur mesure, ont également très tôt succombé à l'égyptomanie, et pas plus tard qu'au moment des expéditions napoléoniennes. À l'époque, égyptologie ne rime pas encore avec science. Jana Menažová de l'Institut d'égyptologie tchèque.
C'est au tournant des 18e et 19e siècles que des nobles rapportent en pays tchèque des objets. L'intérêt pour l'Égypte a été suscité par les expéditions de Napoléon. Mais là, c'était vraiment des aventuriers.
Il faut attendre František Lexa, un mathématicien de formation et philologue qui se rend en Égypte sur le tard mais enseigne l'égyptologie à partir de 1922 à l'université Charles de Prague. Jaroslav Černý, son élève, s'investira vraiment en Égypte. Jana Menažová.
Černý est allé en Égypte et a pu travailler sur des chantiers de fouilles par l'intermédiaire de l'Institut français d'archéologie orientale au Caire. Il y a travaillé surtout en tant que philologue, mais c'est grâce à sa collaboration au sein de l'Institut que de nombreux objets ont pu entrer dans les collections du Musée national tchèque. Ils ont été présentés l'an dernier à l'exposition Thèbes, ville des dieux et des pharaons. Nous en avons un échantillon dans cette exposition actuelle et on les retrouvera en septembre pour la grande exposition consacrée aux 50 ans de l'égyptologie tchèque.
Dernier membre de ce triumvirat des fondateurs, Zbigniew Żaba, qui participe à la création de l'Institut d'égyptologie et joue un rôle important dans le lancement du chantier de fouilles à Aboussir, dans la nécropole des rois, située à 25 km du Caire. Entre 1961 et 1965, l'Institut participe à une campagne internationale de l'UNESCO chargée de sauver les monuments de Nubie menacés par le projet de construction du barrage d'Assouan. Et c'est en 1975 que l'Institut, dirigé par l'égyptologue Miroslav Werner, obtient enfin une concession à Aboussir qui leur permet de fouiller les structures royales datant de 2500 avant Jésus-Christ et les tombes de hauts dignitaires du 3e au 1er millénaire avant Jésus-Christ. C'est là qu'a été réalisée la découverte en novembre dernier d'une chambre funéraire intacte qui avait miraculeusement échappé aux pilleurs. Mais pour faire vivre ce rêve égyptien, il faut aussi des moyens et pour être scientifique, les égyptologues n'en sont pas moins des administrateurs. Une campagne de fouilles coûte cher. Jana Menažová.
Pour les financements, nous devons demander des subventions, donner la preuve de l'intérêt de nos recherches. Si l'on arrive à obtenir les financements pour tel ou tel projet, on sait alors qu'on est assuré pour les 3 à 5 années suivantes.
L'exposition « Découvrir l'Égypte ancienne » est installée au palais Liechtenstein, sur l'île de Kampa à Prague. Elle s'achèvera le 27 avril. Les 50 ans de présence archéologique tchèque en Égypte sera aussi à la Foire du Livre de Prague du 24 au 27 avril. Plus d'infos sur le www.bookworld.cz.
Les joyaux de la couronne de Bohême seront exposés du 19 au 29 avril dans la salle Vladislas du château de Prague. Il s'agit là d'un événement car cela n'arrive que dans des occasions extraordinaires. Cette année, c'est le 90e anniversaire de la fondation de la Tchécoslovaquie et la réélection du président de la République, Václav Klaus. Alain Slivinski nous présente donc ces fameux joyaux et l'exposition elle-même.
Cela faisait 5 ans qu'ils étaient cachés dans l'ombre du coffre-fort de la chambre de la couronne de la chapelle Saint-Venceslas à la cathédrale Saint-Guy. Ils n'en sortent vraiment pas souvent, 9 fois au cours du XXe siècle et 2 fois depuis le début de ce siècle. Charles IV, roi de Bohême et empereur du Saint-Empire romain au XIVe siècle, qui a commandé les joyaux de la couronne de Bohême pour son couronnement et fait construire le château de Karlstein pour les abriter, avait émis le vœu qu'ils ne soient exposés que dans les grandes occasions. Retour sur l'histoire de ces joyaux avec l'historien et directeur du bureau du tourisme de l'administration du château de Prague, František Kadlec.
L'objet le plus important est la couronne. Elle est très ancienne et a été fabriquée avant 1347, probablement 1346. La pomme impériale et le sceptre sont plus récents. Les originaux que Charles IV tenait dans les mains sont aujourd'hui au château de Hofburg à Vienne. Au XVIe siècle, Ferdinand Ier commanda une nouvelle pomme et un nouveau sceptre. Le manteau de couronnement est des plus précieux. Il a été commandé par Ferdinand IV pour son couronnement, c'était en 1653. L'épée de couronnement est l'objet le plus ancien de la collection. Elle est appelée épée Saint-Venceslas.
Sortir les joyaux de la couronne de Bohême de leur cachette bien gardée n'est pas si simple que cela, comme l'explique Peter Kotiebor, employé au service de la protection des monuments historiques du château de Prague, qui a participé vendredi à l'ouverture de la chambre du couronnement et de son coffre-fort. On l'écoute.
C'est un lieu fermé au commun des mortels qui ne peut être ouvert, tout comme le coffre-fort, que par 7 clés différentes. Les dignitaires qui en ont la garde sont le président de la République, le chef du gouvernement, le président du Sénat, le président de la Chambre des députés, l'archevêque de Prague, le prévôt du chapitre métropolitain et le maire de Prague.
Les joyaux de la couronne de Bohême sont, comme tous les trésors, entourés de légendes. L'une d'elles dit que quiconque usurpera le droit de poser la couronne sur sa tête mourra dans l'année d'après. On raconte que le protecteur du Reich, allemand en Bohême-Moravie, Reinhard Heydrich, posa la couronne sur sa tête un soir de novembre 1941. Le 4 juin 1942, il décédait des suites d'un attentat réalisé par la résistance tchèque. L'exposition des joyaux de la couronne de Bohême attire toujours une énorme foule de visiteurs, et ceux-ci doivent faire une queue de plusieurs heures. L'administration du château de Prague attend dans les 5000 personnes par jour à la salle Vladislas, où l'exposition est ouverte de 9 à 17 heures. L'entrée est gratuite.
Une société australienne souhaite pouvoir prospecter et faire des études du sous-sol en République tchèque pour connaître la quantité d'uranium qui s'y trouve encore. Mais elle se heurte au refus de la population et des représentants des communes concernées, et ce malgré d'importantes sommes débloquées pour influer sur leurs décisions. Les explications avec Alexis Rosenzweig.
800 000 couronnes par an, environ 35 000 euros, c'est la somme promise par la société Uran Limited à chaque commune qui accepte que des études soient réalisées sur son territoire. Et l'une des régions concernées est la Vysočina, le plateau tchéco-morave, au centre du pays, pas très loin de la dernière mine d'uranium encore en activité en République tchèque. Et le gouvernement a d'ailleurs récemment décidé de prolonger l'activité de cette mine de quelques années. L'argument financier a été décisif. Les cours de l'uranium sur le marché mondial s'étant envolés. Mais l'argument financier n'a pas été suffisant pour convaincre les représentants des communes de Polna et de Jamné. La mairie de Viejnice devrait quant à elle se décider d'ici le mois prochain, a-t-elle déclaré. Jeudi, le ministère de l'Environnement avait organisé une rencontre entre toutes les parties dans la ville de Jihlava. Les représentants du ministère ont fait comprendre que non plus n'étaient pas favorables à ces prospections, contrairement au ministère de l'Industrie et du Commerce qui, lui, soutient l'initiative de la firme australienne Uran Limited, qui est également intéressée par un autre gisement d'uranium près de la commune de Brskova cette fois. Cette dernière n'a pas encore donné de réponse à la demande formulée, c'était en 2007 déjà. Mais pour le maire de Polna, ce serait tout simplement une catastrophe pour la commune, qui est au centre d'un triangle où les Australiens aimeraient forer. Kate Hobbs, directrice exécutive d'Uran Limited, citée par le quotidien Hospodarske Noviny, tente de convaincre en promettant de l'argent, mais aussi en mettant en avant les technologies modernes qui, selon elle, n'ont pas de retombées sur l'environnement. Et de préciser que si sa société s'intéresse tellement à la République tchèque, c'est avant tout pour les réserves d'uranium dont elle dispose, mais aussi pour les experts locaux qui ont une longue expérience. Rappelons qu'en termes de tonnes d'uranium déjà extraites dans le monde, la République tchèque arrive en 7e position. Dans les deux régions où les Australiens veulent prospecter, il y aurait encore près de 10 000 tonnes d'uranium et au cours actuel, cela représenterait plus d'1,5 milliard d'euros.
laissait depuis des années à l'abandon, la célèbre villa Verich, dans le parc Kampa, au pied du pont Charles, aura enfin un nouveau locataire. La fondation Yann et Mme Ladec, qui est déjà à l'origine du musée d'art Kampa, situé à proximité et qui en fera un centre culturel dédié aux legs d'artistes tchèques comme l'acteur Jan Verich, dont elle porte le nom. Plus de détails avec Jarka Gisibelova.
Un musée des Andins ou encore le siège d'une société commerciale, Colli. C'est tout cela qu'aurait pu devenir la fameuse villa baroque, que personne n'appelle autrement que la villa Verich, du nom de Jan Verich, acteur et fondateur dans les années 20 d'un cabaret intellectuel d'avant-garde à Prague. L'histoire de la villa est liée à bien d'autres artistes tchèques comme le poète Vladimir Holan ou encore Anna Havránková-Slavíčková de la famille du peintre Antoni Slavíček. Depuis les inondations de 2002, la villa est déserte et les appels à location lancés au cours des 5 dernières années sont restés sans suite. Finalement, la mécène des arts, Mme Ladec, est venue avec sa propre vision, faire de la villa un centre culturel, dédié aux legs d'artistes tchèques célèbres. La fondation Jan et Mme Ladec avaient d'ailleurs créé le musée d'art moderne Kampa, où sont exposés des tableaux de František Kupka et que le couple avait collectionné lors de son exil aux États-Unis. On écoute Mme Ladec.
La Tchécoslovaquie a été privée de toute une culture, d'abord sous les nazis qui ont éliminé les juifs, puis sous les communistes qui ont contraint des intellectuels à l'exil. Tout cela ne doit pas être oublié. La nation qui oublie son histoire cessera d'être une nation. Voilà ce que je voudrais faire, permettre surtout aux jeunes d'apprendre tout cela pour qu'ils puissent à nouveau être fiers de leur nation.
La durée de location a aussi été un problème. Mme Ladec entendait louer la villa, tout comme le bâtiment des Moulins Sova, qui abrite son musée d'art, pour 90 ans. Le résultat est un compromis, 40 ans. En revanche, la décision des conseillers municipaux en ce qui concerne la location a été univoque, confirme le maire de Prague 1, Petr Heima.
Louer la villa contre une somme forfaitaire de 23 800 000 couronnes et pour un bail symbolique d'une couronne par jour pendant les 40
ans. Érigé au XVIIe siècle en face du palais Liechtenstein, sur la presqu'île pragoise de Kampa, la villa a un passé célèbre. Elle était une propriété de la famille Nostitz, qui l'a offert à l'une des figures de la Renaissance nationale, Josef Dobrovský, philosophe et inventeur de la slavistique. Quant au plan de son nouveau locataire, Mme Ladec, le rez-de-chaussée de la villa servira à l'organisation d'expositions, de projections et de représentations de théâtre, tandis qu'au premier étage, seront aménagés deux appartements ainsi que des salles d'archives et d'études. Pas plus tard qu'en 2009, la villa Verich devrait être ouverte au public.
La radio tchèque 7, Radio Prague, lance un concours pour ses auditeurs. Pour y participer, il vous suffit de nous écrire quels sont les sportifs et les équipes de sportifs tchèques que vous connaissez. L'auteur de la meilleure réponse remportera un séjour d'une semaine à Prague pour deux personnes. Des prix de valeur et des cadeaux souvenirs sont réservés aux autres participants. Les meilleures réponses seront publiées dans nos émissions du week-end du 28-29 juin 2008 et sur notre site web www.radio.cz. Vous pouvez envoyer vos réponses d'ici au 13 juin 2008 à l'adresse postale Radio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Prague 2, République tchèque. Notre adresse courriel est la suivante, cr@radio.cz. Le prix pour le lauréat du concours est gracieusement offert par le sponsor Orea Hotels, l'une des plus importantes chaînes hôtelières en République tchèque.
Voilà, c'est donc avec le concours 2008 de Radio Prague se terminent ces faits événements, mais pas encore le programme en langue française de Radio Prague. Merci donc de votre attention et de bien vouloir rester en notre compagnie pour la suite économique dans quelques secondes.
économie, commerce.
L'argent n'est pas seulement le nerf de la guerre. Il est aussi celui de la culture. Et la culture, à son tour, peut devenir un enjeu économique. Aujourd'hui, nous abordons le problème des subventions et des réactions du milieu artistique aux défis économiques, avec, en toile de fond, les récentes polémiques qui n'ont fait qu'accentuer des problèmes récurrents. En 2006, une mini-polémique a éclaté à Brno. Mini-polémique, mais maxi-symbole. Suite à l'annonce de la construction d'un centre commercial, les habitants d'un quartier de Brno ont émis de fortes protestations. Le centre a finalement bien vu le jour, mais au prix d'un compromis. Une partie des espaces alloués abriterait une galerie d'art moderne. Paris tenu, Richard Adam, grand mécène, organise avec succès des expositions de jeunes artistes tchèques, les talents de demain, dans la galerie Vaněk. Un bel exemple de lucidité et de résistance au tout consommation qui touche la République tchèque. Rappelons que Prague fait partie des capitales de l'Union européenne qui compte le plus d'hypermarchés par habitant. Pas étonnant que le symbole vienne de Brno, qui possède une énergie culturelle propre et qui est aussi une ville de théâtre. Car le milieu du théâtre est à l'avant-garde des combats pour la culture. Retour à Prague, les rapports entre la mairie de Prague et les organisations d'art à but non lucratif comme les théâtres n'ont jamais été de tout repos, entre changements fréquents de lois et délais. En 2006, une série de réformes avait provoqué une levée de boucliers de certains théâtres pragois. Ils y dénonçaient des atteintes à la juste concurrence économique entre théâtres. L'affaire aura été portée jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. En guise de représailles, la mairie suspendra même un temps les subventions, à tel point qu'en ce début d'année, certains théâtres travaillaient sans filet et avec tous les risques commerciaux possibles. L'enjeu est important puisqu'il ne s'agit pas seulement des théâtres tchèques diffusant des œuvres destinées à une élite intellectuelle. Sont également concernés tous ces théâtres plus grand public. Certains, comme les célèbres Lanterne Magique et autres théâtres Fantastica, attirent chaque année des milliers de visiteurs étrangers qui s'y rendent en famille. Ces théâtres sont au cœur d'un véritable business qui implique également les agences de voyage et les tours opérateurs. Et on ne parle pas des festivals, également liés au tourisme. Fin mars, suite à la crise que nous venons d'évoquer, la mairie de Prague a donné son accord pour le lancement d'un nouveau système de subvention à l'art établi en novembre 2007. Surprise pour les organismes artistiques, cette année, elles recevront moins que l'année passée. L'onde de choc a été particulièrement vive dans les milieux artistiques. Pour certains théâtres, la baisse des aides s'élève à 60% par rapport à 2007. Le 1er avril, plus de 200 artistes se réunissaient pour une conférence de presse au théâtre Arca et une pétition a déjà été lancée. En outre, les organisations à but non lucratif critiquent les nouvelles modalités d'allocation. Celles-ci sont divisées en 4 groupes, dont le premier est destiné à la vente des tickets, ce qui désavantage nettement les organismes non commerciaux. Autre critique, des fonds plus importants seraient attribués aux spectacles à grand public, qui ne sont pas nécessairement les plus pertinents, artistiquement parlant. D'après les nouveaux critères, 25% des subventions seraient allouées aux ventes de tickets, 25% autres aux activités artistiques, 20% aux étudiants en art et aux jeunes artistes, et 30% aux dons divers. Le nouveau système rappelle la loi, aujourd'hui abrogée, sur le calcul des déductions sur les revenus des employés étrangers en République tchèque, et dont nous parlions récemment sur nos ondes. Un nouveau mode de calcul qui, là aussi, faisait surtout des mécontents. Sauf que dans le cas des artistes, la perte est réelle. Le gouvernement essaye-t-il d'économiser sur la culture ? Les critiques globales des organisations culturelles portent, depuis la création de subventions à la culture, sur la non-transparence et la corruption. Quelle que soit la valeur des jugements, une chose est sûre, les sphères politiques et culturelles doivent renouer le dialogue. Car la question des subventions à la culture porte en elle des enjeux économiques importants liés en premier lieu au tourisme.
Voilà, c'est la fin de cette rubrique économique et pour aujourd'hui des émissions en langue française de Radio Prague. Merci encore de votre attention et de votre fidélité. Pour nous retrouver, rendez-vous sur le site internet de Radio Prague au www.radio.cz ou mieux encore, dès demain, près de vos postes, même heure, même fréquence. Ahoy.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on